Audrey Mondy.
L'horreur et toujours la stupéfaction ce matin dans le Lütschental. Le glacier de Birch a fini par se détacher d'un coup hier après-midi. Une gigantesque avalanche de glace, de boue et d'éboulis a rasé une très grande partie du village de Blatten, heureusement évacué de ses 300 habitants depuis 10 jours. Le canton avait décrété plus tôt dans la journée la situation particulière lui permettant d'agir rapidement. Bonjour Émilien Verdon.
Bonjour Aude.
Les dégâts dans la région de Blatten sont très importants.
Hier soir, devant la presse, en compagnie des conseillers fédéraux Albert Ruchti et Martin Pfister, le président de la commune, Mathias Bellwald, au bord des larmes, a promis que le village de Blatten se relèvera, mais ça prendra du temps. Ce mercredi 28 mai restera dans l'histoire du canton du Valais. Vers 15h30, il n'a fallu que quelques secondes dans un bruit terrifiant pour que le glacier vienne s'écraser dans la vallée, ensevelissant la petite commune. 90% a été détruite. Les débris s'étendent sur 2 km de longueur pour parfois 200 mètres de large. D'après les dernières informations ce matin, malgré l'évacuation des 300 habitants, une personne, un homme de 64 ans, est portée disparue.
Et quelle est la situation ce matin, Émilien ?
Dans l'immédiat, le lit de la Lonza a été recouvert, lui aussi provoquant un risque très important. Un lac est en train de se former, menaçant toute la région de couler de débris. Ce n'est pas très probable, mais possible, selon le chef de service des dangers naturels en Valais, Raphaël Maillora. Une solution pour permettre à l'eau de reprendre son cours fait donc partie d'une des priorités. Par mesure de précaution, quelques bâtiments des villages voisins de Villers et Quipel sont actuellement évacués. Au vu de l'urgence, la situation particulière, vous l'avez dit, a été décrétée. Et puis l'armée et la protection civile viendront en renfort.
Émilien Verdon, en direct de Sion, merci. La détonation produite hier par l'éboulement a provoqué la stupeur dans les communes alentours, notamment dans le village voisin de Villers, environ 4 km de Blatten. Écoutez ce témoignage de Joël Courtineau, employé de l'hôtel Sporting.
J'étais en train de travailler au restaurant et d'un coup, il y a eu un grand bruit. J'ai vu les lumières s'allumer, s'éteindre brièvement, puis il y a eu une grosse explosion. J'ai vu un grand nuage de fumée, donc très probablement que tout est tombé d'un coup, comme je viens de le voir dans des vidéos. Je peux m'imaginer que les maisons ont été touchées. Tout cela s'est passé en 5 minutes.
Un témoignage recueilli par nos collègues de SRF. Les autorités valaisannes prévoient une nouvelle conférence de presse aujourd'hui sur l'évolution de la situation dans la zone sinistrée. Le parrainage suisse pour les communes de montagne met déjà à disposition un fonds d'1 million de francs pour venir en aide à Blatten. Gros revers pour le président américain Donald Trump sur les droits de douane. Un tribunal a décidé cette nuit de bloquer ceux imposés depuis avril sur l'ensemble des produits qui entrent aux États-Unis. Selon les juges, le président américain a outrepassé ses pouvoirs. Le gouvernement Trump fait appel de cette décision. En Suisse, ces nouvelles taxes auraient dû entrer en vigueur dans 41 jours. Hier, le Conseil fédéral avait d'ailleurs accepté un projet de mandat de négociation économique et commerciale avec les États-Unis pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Au Proche-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a confirmé hier l'élimination de Mohamed Sinwar, le frère cadet du leader historique du Hamas. Le gouvernement israélien présente cet assassinat comme un succès militaire, mais il ne devrait pas avoir d'impact sur les négociations autour des otages, ni sur l'avenir du mouvement islamiste Miruna Kokakosma.
La confirmation de Benjamin Netanyahou intervient 2 semaines après l'attaque de l'armée israélienne qui visait le leader du Hamas. Une attaque qui s'est déroulée lors d'une réunion secrète du mouvement islamiste dans un tunnel souterrain à Khan Younes, selon le Wall Street Journal. Mohamed Sinwar était devenu le chef de facto du Hamas à Gaza après la mort de son frère Yahya en octobre dernier, cerveau du 7 octobre. Mohamed était connu pour sa discrétion, son surnom, l'ombre. Commandant de la brigade de Khan Younes jusqu'en 2016, il avait gravi les échelons de l'aile militaire pour prendre la tête de l'organisation dans la bande de Gaza. Mais là, s'arrêtent les similitudes avec son aîné. Car contrairement à Yahya Sinwar, qui exerçait une influence déterminante sur les négociations de cesser le feu depuis ses tunnels, Mohamed n'a jamais eu le même poids politique. La disparition des frères Sinwar, piliers du commandement militaire local, ouvre donc une période d'incertitude pour le Hamas. Le vide de pouvoir pourrait profiter à la direction en exil, notamment basée au Qatar. Longtemps marginalisée par les décisions centralisées des frères Sinwar, elle pourrait tenter d'imposer un leadership plus diplomatique ou malléable.
En tennis, il n'y a déjà plus de Suisse à Roland-Garros. Jill Teichmann a logiquement subi hier la loi de la patronne du circuit, Arina Sabalenka, en 2-7, 6-3, 6-1. Bernardin Lehmann a assisté à la partie.
L'histoire retiendra certes la défaite, mais on n'oubliera pas, par correction, que durant une grosse demi-heure, la numéro 1 mondiale a été frustrée par une Jill Teichmann volontaire qui avait décidé de jouer crânement sa chance. La gauchère suisse n'a-t-elle pas mené 3-1? Arina Sabalenka a longtemps plus additionné les gestes d'humeur et d'incompréhension que de triomphe. Mais la logique a repris le dessus, la mission était impossible, 9 jeux perdus d'affilée. Au final, Jill Teichmann a logiquement lâché prise et passe donc à la trappe en 1h19. Mais avoir gagné un premier match en Grand Chelem depuis quasiment 2 ans et avoir eu le droit de défier Sabalenka sur un grand court, même si ça n'a pas été le central, Philippe Châtrier, tout cela ne peut que faire du bien à la joueuse de 27 ans en difficulté depuis 3 ans. Elle doit avoir envie de revivre ces moments avec son talent, son jeu attrayant, varié, elle doit viser mieux que son classement actuel, elle qui est 97e joueuse mondiale. Bernard Dalleman, RTS Sport, Paris.
Météo, la journée s'annonce bien ensoleillée avec quelques voiles de nuages élevés, parfois denses jusqu'à la mi-journée. Il fera au maximum 22 degrés en pleine. Demain plus chaud, 28 degrés au meilleur de la journée et du soleil avec des rares cumulus l'après-midi en montagne. Ce week-end de l'Ascension sera lui aussi beau et chaud mais avec une tendance à l'orage dès samedi en fin de journée.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
La matinale, Yann Amedro.
Et on revient maintenant dans cette matinale sur la catastrophe de Blatten, ce scénario du pire qui s'est donc produit hier après-midi dans le Lötschental. Une importante partie du glacier du Birch a cédé. 3 millions de mètres cubes de roches au moins qui recouvrent une importante partie du village valaisan évacué depuis une dizaine de jours. Un village quasiment rayé de la carte, c'est du jamais vu dans l'histoire récente de la Suisse. Bonjour Émilien Verdon.
Bonjour Yann, bonjour à tous.
Vous êtes l'un de nos correspondants en Valais. Quelles sont ce matin les dernières informations ?
90% du village de Blatten a été détruit. Les débris s'étendent sur 2 km de longueur pour parfois 200 mètres de large. D'après les dernières informations ce matin, malgré l'évacuation des 300 habitants, une personne, un homme de 64 ans, est toujours portée disparue.
Et quelle est l'urgence ce matin ?
Alors la situation reste encore très compliquée sur place afin d'éviter toute autre catastrophe. L'armée et la protection civile sont mobilisées. Le Valais a décrété la situation particulière pour agir plus rapidement car l'effondrement d'hier a bloqué 2 rivières, parmi elles la Lonza. L'eau s'accumule devant les gravats formant un lac avec le risque de couler de débris dans le reste de la vallée. Par mesure de précaution, quelques bâtiments des villages voisins de Villers et Kippel ont été évacués.
Et si on remonte le temps, Émilien, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette catastrophe ?
Il y a 2 semaines, les autorités s'inquiètent. La montagne se déplace de plus en plus vite. Elle menace de s'effondrer. Le village est d'abord partiellement évacué, puis totalement le lundi 19 mai. 300 habitants quittent Blatten. Ils ne savent pas à ce moment-là qu'ils ne reviendront jamais chez eux. Mais il y avait de l'espoir et il grandissait un peu chaque jour.
Pourquoi ?
Parce que finalement le temps passait et puis le pire scénario présenté au début ne se produisait pas, à savoir à l'époque l'effondrement total en une seule fois d'un pan de montagne de 6 millions de mètres cubes de roches. Les débris descendaient petit à petit. Il y a une semaine, on devenait presque optimiste. Écoutez Alban Brigger, ingénieur cantonal pour les dangers naturels, c'était le 22 mai.
Je peux exclure que tout le village de Blatten soit rasé, ça, à mon avis, avec les masses qui sont tombées, ça, c'est plus un scénario qui est probable. C'est donc clair, maintenant, selon les scénarios qu'on définit avec les experts et la commune, on peut prendre les conséquences, aussi adapter le périmètre d'évacuation. Ça, on espère que vers la fin de cette semaine, ou au plus tard, le début de la semaine prochaine, on pourra en discuter et puis prendre une étape après l'autre.
À ce moment-là, on s'inquiétait déjà de voir la roche s'accumuler sur le glacier, mais sans imaginer le pire.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, finalement ?
Eh bien, la montagne a continué de s'effondrer sur le glacier de Birch et avec le poids des débris, il a commencé à se déplacer. D'abord 1 mètre par jour, puis 2, puis 10 et jusqu'à 20 mètres mardi. Des petits morceaux ont commencé à se détacher. Hier matin, les premières coulées atteignent la vallée. Elles ne touchent pas de maison, mais vers 15h30, le scénario catastrophe se produit. Le bruit bruit est tout aussi effrayant que les images. Une énorme masse s'effondre d'un seul coup. En quelques secondes, elle s'écrase directement sur Blatton, qui est presque totalement détruit. Ne reste plus qu'un gigantesque champ de ruines. Ce mercredi 28 mai marquera l'histoire récente du canton du Valais par l'une de ses pires catastrophes.
Merci Emilien Verdon, direct de Sion. Et en ligne avec nous maintenant, la conseillère d'État valaisanne Francisca Biner. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous étiez sur place hier soir lors de la conférence de presse des autorités en tant que représentante du canton. Qu'avez-vous ressenti en arrivant sur place ?
Bon, c'est un événement très tragique pour notre canton, pour toute la Suisse. Mais c'est clair, c'est surtout pour les gens de Blatten que c'est un événement très tragique. Ils ont perdu leur maison, leur village. Et on a une compassion énorme avec les gens de Blatten.
Vous êtes vous-même une habitante des régions de montagne, Zermatt. Est-ce que ce genre de catastrophe vous touche aussi particulièrement?
Oui, déjà la semaine passée, j'étais dans la vallée de Lütschental et puis on a fait un petit résumé avec le président de la commune et la présidente de la vallée. Puis ils ont nous expliqué les dangers qu'il y en a. Et puis après, je suis rentrée dans ma vallée à Zermatt. Et à chaque virage, on peut penser qu'il peut arriver la même chose. Et c'est pas que dans ma vallée, c'est dans beaucoup de vallées ont parlé qu'il y a ce danger. Et puis alors, c'est pour ça que je dis, on a une compassion énorme.
Une compassion énorme. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, vous, ce matin, Francisca Biner, en tant que ministre valaisanne?
Oui, la même chose que vous avez maintenant dit, que vous étiez informé. Il y a la Lonza avec l'eau qui est maintenant le problème le plus grand. On espère qu'ils trouvent des solutions pour pomper l'eau et pour le faire sortir de la vallée. Et comme vous avez écouté, il y a des maisons qui étaient encore évacuées hier soir au long de la Lonza, juste pour précaution, mais on sait déjà bien que c'est mieux de faire ça.
Ces évacuations, effectivement, décidées hier soir, ça concerne combien de personnes?
Ce sont à peu près 10 maisons qui sont vraiment proches de la Lonza, pas que pour l'eau et aussi pour ne pas avoir des débordements de terre proche de la Lonza à cause elle va venir beaucoup de l'eau. Heureusement, il y a encore rien qui s'est passé et puis ils ont trouvé encore une maison à 10h, 11h, 12h le soir.
Donc des évacuations d'une dizaine de maisons dans ces villages en aval, Villers et Kippel. Est-ce qu'il y en a d'autres à prévoir ces prochaines heures? Ça, c'est une possibilité qu'on continue à évacuer par précaution?
Bon, maintenant ce matin, ils se sont fait à nouveau ils ont analysé encore une fois la situation hier. Ils ont rentré avec des drones et de l'hélicoptère, mais il y avait encore de brouillard, il y avait de la pluie. Ils n'ont pas pu voir tout, ils n'ont pas pu voir s'il y a tout qui est déjà descendu. Et pour ça, ce matin, ils vont faire une grande analyse et puis ils vont encore essayer de chercher la personne qui on ne sait pas où elle est.
Oui, un sexagénaire de la région de 64 ans porté disparu, donc l'opération de recherche est toujours en cours pour tenter de retrouver cette personne.
C'est tout à fait ça, parce que hier, quand il y avait le temps qui était très mauvais, et puis la situation, la zone, elle n'est pas encore sécurisée, on ne sait pas encore s'il y a des choses qui tombent encore, et puis aussi la masse qui est dans la vallée maintenant, ce sont des pierres qui sont mesclées avec du glacier, puis alors ça bouge encore un peu, on peut pas aller au-dessus. Il faut vraiment d'abord sécuriser la situation avant de pouvoir faire quelque chose.
Ça, c'est la priorité pour les prochaines heures, sécuriser la situation sur place. Est-ce que vous allez déjà recevoir l'aide de l'armée ce matin dans les prochaines heures, comme promis hier soir par les deux conseillers fédéraux sur place, Martin Pfister et Albert Rösti?
Ils sont déjà arrivés hier soir. Dans le rapport qu'on avait à 9h30, ils étaient, bon, pas l'armée, mais les responsables de l'armée. Il y a deux sections qui vont entrer, et puis les responsables, ils étaient déjà là hier soir à 9h30, et puis ils étaient chez le rapport où on a discuté la situation, et puis après, ils se sont mis autour de la table avec les responsables sur site, et puis ils ont commencé à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui quand il y a les hommes qui vont arriver pour faire le travail.
Donc l'armée est déjà sur place. Est-ce que vous avez aussi besoin de l'aide d'autres cantons? Est-ce qu'une aide intercantonale est prévue à ce stade?
À ce stade-là, ils sont en train d'analyser quoi faire, comme j'ai dit. Ils ont eu le premier rapport à 6h et ils commencent à voir. La première chose qu'ils vont faire, comme j'ai déjà mentionné, c'est d'essayer de faire quelque chose pour l'eau de la Lonza.
Oui, ça c'est l'inquiétude principale ce matin, cette eau de la Lonza, ce lac qui s'est formé, qui grossit depuis que les gravats bouchent, hein, la rivière Lonza, ça c'est vraiment la priorité de ces prochaines heures, avec peut-être un risque d'inondation qui n'est pas à exclure.
Oui, c'est ça, l'eau, il monte. Maintenant, comme le matériel, comme j'ai déjà mentionné, il est mesclé, il y a de la pierre et puis de la glace, ça peut être que l'eau, il trouve quand même quelque part un chemin pour sortir de la vallée lui-même, mais ça dure et c'est pour ça qu'il faut vraiment encore trouver des autres solutions.
Francis Cabinet, conseillère d'État valaisanne, vous restez avec nous. Je vous propose maintenant d'écouter Raphaël Mayora, c'est le chef du service des dangers naturels. Dianalys Ramsawor a pu l'interroger hier soir, juste après la conférence de presse des autorités sur place. Il revient sur ce scénario catastrophe qui s'est produit hier après-midi, scénario qui semblait pourtant s'écarter ces derniers jours. On le rappelait avec Émilien Verdon, qui a surpris tout le monde, y compris les experts. Alors comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a fait finalement céder le glacier? Écoutez les explications de Raphaël Mayora.
Oui, ça fait depuis 10 jours qu'on a des chutes de pierre de grande importance qui tombent sur le glacier. Et puis, il faut vous imaginer que c'est un petit peu comme si vous avez une luge avec un poids dessus. Et puis, la luge, c'est le glacier. Et à force de mettre du poids dessus, la luge, elle commence à glisser et elle descend. Et elle a commencé à glisser il y a 1 ou 2 jours de manière plus rapide. Et puis à un moment donné, le glacier n'a plus assez d'appui sur le sol. Donc il y a tout le glacier qui est parti avec tout l'amas de roches qu'il y avait au-dessus. Donc c'est un mélange de glace et de blocs qui est descendu. Et c'est ce mélange-là, ça devient une pâte vraiment incontrôlable qui peut aller très 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 loin. C'est ce qui est arrivé. Et on avait des scénarios dans ce sens-là, et la propagation de l'événement correspond assez bien au scénario extrême qu'on avait calculé et qui a été pris en compte pour l'évacuation.
Jusqu'où peut-être la masse gravat est arrivée, d'un côté ou de l'autre de la vallée, peut-être sur le versant aussi opposé?
Oui, elle est remontée beaucoup sur le versant opposé, exactement comme le font les avalanches en hiver. C'est allé peut-être un petit peu plus haut que les simulations. Il faut bien voir que là derrière, c'est des simulations mathématiques, donc c'est pas tout parfait. Mais c'était assez cohérent avec ce qu'on a prévu.
Et pour la suite, par rapport à cette rivière, la Lonza, quels sont les risques?
Alors le risque, il est imminent, c'est-à-dire que l'eau de la Lonza, elle peut pas descendre dans la vallée, parce que maintenant on a un immense bouchon. Ce bouchon, il fait 2 kilomètres de long. C'est des gravats, de la glace, des blocs. Il y a des blocs grands comme cette pièce, hein, là-dedans. La Lonza ne peut pas s'évacuer. Donc, c'est comme si vous aviez un barrage. Alors, un des risques, c'est que ce barrage lâche, ce qui est relativement peu probable vu la grandeur du barrage et sa longueur. Mais la Lonza va chercher un chemin là-dedans, et c'est toujours assez délicat de voir où elle va passer, si elle forme des petits lacs souterrains, etc. Donc ça, c'est du monitoring qu'on va faire, tout en restant extrêmement prudent par rapport aux plans d'alarme qui ont été établis pour les villages en bas. Le worst case scénario, il prévoit un éventuel débordement au-dessus du lac Verden, mais c'est vraiment, vraiment extrême. À mon avis, c'est peu probable, mais On n'écarte pas les worst-case scénarios. On ne sait pas à quelle vitesse le niveau de l'eau va monter. Il y a relativement peu d'eau dans la rivière vu qu'il fait froid. Il faut avoir un petit peu de recul. Il faut aller là-haut sur place et regarder ce qui se passe. Et pour aller sur place, il faut déjà être sûr qu'il n'y a plus rien qui nous tombe sur la tête.
Justement, les risques que d'autres choses tombent encore.
Bon, je pense que l'essentiel du volume est descendu. Le glacier qui retenait ses débris aussi, il est descendu. Donc, je pense que le risque est moins grand. Mais ça, c'est vraiment une estimation qui, techniquement, ne vaut pas grand-chose à ce stade.
Évacuer toute la vallée, vous y avez pensé?
Alors, actuellement, il n'y a pas de raison d'évacuer toute la vallée parce que les villages, là où on se trouve, sont très nettement au-dessus du niveau de la Lonza. Donc, c'est impossible que, ou quasiment impossible que l'eau de la Lonza, elle monte jusque dans ces villages. Il y a quelques lotissements qui se trouvent en bas, des fermes et tout ça, qui se trouvent proches de la rivière. Ceux-là, ils ont déjà été évacués, mais il y a 10 jours, en même temps que Blaten.
Et sur un plan peut-être plus personnel, vous aviez jamais vu ça? Vous ne connaissiez pas ce genre de scénario?
Oui, ça va même plus loin que ça. Ça veut dire que même dans l'histoire, parce qu'on apprend pas mal de choses de ce qui se passe ailleurs, j'ai jamais vu un cas comme ça. On a eu le cas de Bondo Cengalo au Grison, où c'est tombé sur le glacier, mais en une masse tout d'un coup. Ça a pulvérisé le glacier, c'est descendu, et puis après ça a duré 2-3 jours. Ici, c'est descendu pendant plusieurs jours, des blocs très gros. Et ça a accumulé et le glacier, au lieu de se pulvériser en une fois puis donner des laves torrentielles, ben il est resté en une masse, il avançait, puis il est parti tout d'un coup. Et ça, c'est un scénario assez incroyable. Ici, dans un chalet, il y a l'ancien professeur de glaciologie de l'ETH de Zurich qui s'appelle Martin Funk, qui a, je pense, 70 ans. Il est venu avec nous, on a discuté avec lui et on a parlé de ce scénario, puis il a dit... Je pense pas que ça va arriver et je connais pas de cas où c'est arrivé. Maintenant, je vais discuter avec lui ces prochains jours. Je lui ai dit, tu vois, Martin, on est toujours aussi nul. On n'a pas prévu un cas aussi extrême que ça. Quand je dis qu'on est nul, c'est peut-être exagéré, mais franchement, c'est assez incroyable après tant d'années dans ce domaine de voir d'arriver à une conjonction d'éléments qui finissent par une catastrophe pareille. Mais ça veut dire que la conjonction d'éléments, c'est ce à quoi on doit penser pour le futur.
Raphaël Mayora, chef du service des dangers naturels en Valais hier soir avec Diane Alice Ramsauer. On est toujours aussi nul, on n'a pas prévu un cas aussi extrême que ça. On entend Francisca Binaire, conseillère d'État valaisanne, vous êtes toujours avec nous. On entend l'humilité, l'incrédulité quelque part de cet expert qui connaît parfaitement le terrain. Est-ce qu'il y a aussi chez vous, chez vos collègues du Conseil d'État, ce même sentiment de surprise, d'incrédulité face à ce qui s'est passé?
Oui, c'est clair. J'ai déjà dit hier, si ce sont les montagnes qui tombent, on est tellement impuissant de pouvoir faire quelque chose contre, non? Et puis, comme Monsieur Mayora, il a dit, il y a vraiment cette mal combinaison du glacier qui était là, qui était sous le poids des blocs qui tombaient et on pouvait rien faire contre et oui, ça c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir faire quelque chose, mais j'ai déjà dit, si ce sont les montagnes qui tombent, on peut rien faire. Et puis, vous savez, il y a vraiment toute l'équipe autour de Mayora qui a fait un énorme travail ces derniers jours. Ils ont essayé d'aider aux gens de l'Occidental le plus qu'ils pouvaient. Je dois vraiment aussi dire les gens de l'Occidental avec toutes leurs gens qui sont en train de gérer la situation, ils font un énorme travail. Ça fait 10 jours qu'ils sont là, presque 24 heures par jour. Et maintenant, 10 jours après ce grand travail qu'ils ont fait, il y a encore le worst case scénario qui s'est passé. Alors c'est vraiment dur.
Et le scénario du pire qui s'est déroulé en première ligne, il y a aussi le président du village de Blaten, Mathias Belvald, très ému forcément hier soir lors de la conférence de presse à Blaten. Il a promis aux habitants qu'ils pourront revenir. Écoutez.
Nous avons perdu le village aujourd'hui, mais pas le cœur. Même si le village est sous un grand cône de gravats, nous savons que Blaten se trouve toujours là derrière, dans la vallée. Nous savons où l'église et où nos maisons doivent être reconstruites. Nous sommes tous ensemble responsables de faire ce qui est humainement possible pour que nous puissions reconstruire le village et que Blaten ait un avenir. Nous y retournerons. Ensemble, nous sommes forts, cela prendra beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de soutien. mais la montagne et le glacier ne peuvent pas descendre deux fois.
Nous y retournerons. La résilience malgré le choc et l'émotion de Mathias Belval, président de Blatten. C'était aussi la même tonalité du côté d'Albert Rösti, pour qui la Confédération va tout faire pour reconstruire ce village. Francisca Biner, c'est aussi votre espoir. Vous allez tout faire aussi, le Conseil d'État valaisan, pour que Blatten puisse renaître de ses cendres. C'est réaliste?
Oui, c'est clair, le canton va tout faire pour aider aux gens pour reconstruire leur village. Maintenant, pour le moment, c'est vraiment l'actualité, c'est vraiment de sécuriser et puis de résoudre tous les problèmes qu'il y a pour le moment. Mais à long terme, c'est clair, des situations comme ça, ils peuvent passer dans plusieurs parties de notre canton, je dis même dans la Suisse, comme vous avez déjà mentionné, le cas de Bondoro et d'autres. Alors c'est pour nous, pour le Valais, pour le canton, c'est important qu'on puisse reconstruire ce village et puis qu'on a la solidarité des autres cantons, de la Confédération qui vont nous aider aussi après quelques mois, parce que ça va prendre du temps et ça ne va pas être facile. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ce soutien et de cette solidarité dans la Suisse.
Un soutien qui s'exprime effectivement depuis hier. La reconstruction, forcément, elle va prendre du temps. Est-ce que sur le plan financier, le canton sait déjà à quelle hauteur ça peut se chiffrer? Qu'est-ce qu'il va falloir mettre sur la table pour que cet objectif de revoir un jour Blatten reconstruit soit réalisé?
Pour le moment, le primordial, c'est vraiment de sécuriser la situation dans le Lütschental, à Blatten, avec la Lonza, avec tous ceux. Ce qui est important pour le moment, on n'a pas encore fait des chiffres ou d'analyse de situation dans le sens de reconstruire le Lütschental, parce qu'on n'a même pas la dimension, parce qu'il y a encore toujours l'eau qui peut toujours détruire des autres maisons aussi.
Le canton qui a décrété hier matin la situation particulière, est-ce que ça peut aider aussi en termes de dédommagement, d'indemnisation pour tous ces habitants de Blatten qui ont perdu leur maison?
C'est justement pour ça qu'on a fait ça. Comme ça, pour le canton, c'est plus facile de faire de chercher les forces et de le faire entrer dans la vallée. Puis après, c'est clair, pour chercher un financement et pour reconstruire la vallée, c'est pas les communes qui peuvent payer tout, c'est pas le canton qui peut payer tout. Là, on a aussi vraiment besoin de la Confédération et le soutien des autres. Il y a des différentes institutions, heureusement, qui existent, qui vont pouvoir aider. Et puis comme j'ai déjà dit, on va avoir besoin du soutien de d'autres aussi pour le reconstruire.
On entend cet appel à ce soutien, cette solidarité. Francisca Biner, conseillère d'État valaisanne, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour venir en direct dans cette matinale au lendemain de cette catastrophe qui a touché Blatten. Belle suite de journée à vous.
Merci pareillement.
Et toujours en ligne avec nous notre correspondant en Valais, Émilien Verdon. Émilien, l'une des difficultés depuis hier, c'est d'avoir accès directement aux habitants qui ont tout perdu leur maison, perdu une vie. On imagine leur incrédulité aussi, comme on entend dans la bouche des experts, dans la bouche des politiques.
Oui, c'est sûr que de contacter les habitants a été très compliqué hier. Hein. Ils sont tous forcément sous le choc. On avait pu, avant la catastrophe de hier, les entendre un petit peu. Ils nous disaient un peu ce que disait Francisca Biner tout à l'heure. Voilà, on est des montagnards. On sait les risques que l'on a en habitant en dessous d'un glacier comme celui-ci. Mais c'est clair que hier, il y a tout qui s'est évaporé en quelques instants. Une vie qui a disparu avec ses maisons toutes emportées. C'était quand même intéressant aussi d'avoir l'émotion de ces personnes avant qui saluaient aussi toute l'activité qui a été faite par la commune, les aides qui ont été mises en place. On le disait tout à l'heure, il y a des appartements qui ont été mis à disposition par l'Office du tourisme du Lütschental. Après, il y a aussi la solidarité entre les familles qui ont été accueillir des proches. Mais c'est clair que voilà, aujourd'hui, c'est surtout le choc et il va leur falloir quelques jours pour reprendre leurs esprits très probablement.
Émilien Verdon. Merci beaucoup, l'un de nos correspondants en Valais. On reviendra bien sûr sur cette catastrophe de Blatten dans nos prochains journaux, nos prochaines éditions, ainsi qu'en tout temps sur notre app RTS Info.
Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
La météo de ce jeudi de l'Ascension, bien ensoleillée malgré des voiles de nuages élevés, parfois denses jusqu'à la mi-journée. Côté température, 22 degrés au meilleur de la journée. Un fort redout en montagne, 0 vers 4000 mètres. Demain, un temps ensoleillé et chaud, de rares cumulus l'après-midi en montagne. Température comprise entre 12 le matin, 28 l'après-midi. Ça va encore grimper pour ce week-end jusqu'à 29 samedi avec l'arrivée des orages. Dimanche, encore un temps lourd et un risque d'orage qui augmentera dès la mi-journée.
L'heure avec RTS Première.
Il est 7h30, vous écoutez la matinale en ce jour férié, merci d'être avec nous. Deux invités nous rejoignent dans un instant pour parler d'un nouveau festival roman, mais d'abord un peu de musique. Cecilia, Simon and Garfunkel dans la matinale de ce 29 mai. À 7h33, on s'intéresse à un nouveau venu dans le monde des festivals romans, le Prestival, un rendez-vous dédié, comme son nom l'indique, à la presse et aux médias, avec au cœur de cette édition cette question: c'est quoi être journaliste en 2025? Première édition qui va donc se dérouler dans 10 jours, le samedi 7 juin, à Bienne et pas n'importe où, dans un ancien stade de foot, le stade de la Gourcelaine, qui est en friche aujourd'hui. Pour en parler avec nous, deux membres du comité d'organisation, Séverine Chave, en charge de la programmation, et Pauline Rumpf, responsable de la logistique. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
La presse, les médias, ça rime 7 ans avec mesures d'économie, licenciements, concurrence des réseaux sociaux, fausses informations, bousculement de l'intelligence artificielle. Bref, un secteur en crise, pourquoi lui dédier un festival ?
Ben peut-être justement parce qu'il est en crise et parce qu'on pense que c'est important de se poser ces questions collectivement, de prendre du recul sur la profession entre professionnels, mais aussi avec le public qui nous écoute, qui nous regarde et qui nous lit tous les jours. Et puis c'est justement, on pense, le bon moment pour le faire parce qu'on est un petit peu dans cette période charnière où on a l'impression d'arriver à la fin d'une ère et qu'il va falloir... inventer la nouvelle.
Un festival en mode introspection, quelque part aussi, Pauline Rumpf.
Oui, c'est sûr, je pense que c'est des questions qui sont, pour les journalistes, toujours assez personnelles, de savoir comment ils vivent leur métier, mais ça reste aussi toujours une question qui est aussi publique, aussi de démocratie. Donc de pouvoir ouvrir cette discussion au plus large public possible, c'est un peu ça le but. Et puis j'ajouterais peut-être qu'il y a aussi un peu un besoin de quelque chose de positif aussi dans la profession à ce niveau-là. C'est vrai que beaucoup de gens qui ont travaillé dans ce milieu ces dernières années ou décennies ont connu des périodes assez difficiles, beaucoup de vagues de licenciements, de nouveaux défis auxquels il faut s'adapter. Et je pense qu'il y avait un besoin aussi de se retrouver autour de quelque chose de positif, de festif, où on construit plutôt qu'on subit ou on détruit. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a encore des raisons de se réjouir quand on est journaliste en 2025, se lancer dans cette carrière, c'est pas compliqué, suicidaire, c'est aussi enthousiasmant.
Ah bah bien sûr.
Ouais, on peut toujours le voir comme suicidaire. C'est vrai que moi quand je me suis lancée dans ce métier, ça restait déjà, on me mettait en garde, t'es sûr tu vas finir au chômage, est-ce que vraiment c'est une voie d'avenir? Et je pense que les jeunes qui se lancent maintenant se posent encore cette question. Et pourtant il y a encore des gens qui ont envie et pourtant il y a encore un besoin au niveau de la société. Donc je pense qu'il faut continuer à le faire et c'est aussi pour ça qu'on s'est décidé à finalement se lancer, c'est pour un petit peu offrir un peu d'espoir à tous
ces gens. Un nouvel élan, on va dire.
Ouais, voilà.
Un nouvel élan avec une jeune génération aussi. Hein, le comité d'organisation, une équipe de jeunes journalistes trentenaires dans la moyenne. Qu'est-ce qui vous a motivé au fond à créer cet événement ? Comment c'est né ? Je crois que tout est parti d'un apéro.
Alors, comme dirait notre président Tristan, c'est un apéro qui a mal tourné. Non, mais en soi, ça faisait quand même plusieurs années, je pense que c'est plusieurs apéros en fait où le sujet revenait un petit peu comme un running gag comme ça. Et puis il y a eu le déclic de la Gourde-Sélène où d'un coup on s'est dit mais en fait ce serait génial d'investir un stade en entier. Enfin c'est assez inespéré comme espace et du coup la programmation peut être pléthorique parce qu'il y a 10 espaces. Enfin ça nous permettait un petit peu de voilà d'imaginer quelque chose d'assez exhaustif sur cette thématique là.
Effectivement, ce lieu ne c'est pas banal, un stade en friche, on voit aussi le clin d'œil quelque part avec ce secteur en crise. Comment vous allez l'investir, ce stade, Pauline Rumpf, vous qui êtes responsable de la logistique?
Ouais, alors c'est beaucoup de travail et beaucoup de choses assez diversifiées. Il y a à la fois des espaces qui existent déjà, il y a un studio de radio associatif dans les gradins de la Gourde-Sélène qui nous accueille. Il y aura, en fait, les gradins nous servent aussi d'espace conférence. Il y a des architectes qui ont construit une petite salle dans laquelle on va accueillir une expo de dessin de presse. Il y a toute une zone graffiti qui va être investie par les photojournalistes pour des expos, une expo de photos justement sur le thème des supporters de sport. Un petit clin d'œil aussi au stade. Et puis après, en plus de ça, on crée aussi nos propres infrastructures. On a plusieurs tentes pour accueillir des stands, une zone de débat. On a une yourte qui va être montée aussi pour accueillir la zone internationale. Donc c'est pas mal de petites coordinations pour faire vivre ce stade, mais qui vit déjà sans nous. Et du coup, c'est assez chouette de pouvoir s'intégrer dans cet écosystème.
Avec pas mal de bénévoles, hein, puisque c'est uniquement, principalement des bénévoles qui sont derrière l'organisation de ce festival. Ça, c'est aussi une grosse logistique.
Ouais, c'est uniquement des bénévoles. Et effectivement, c'est une grosse logistique. On entend pas mal dans les médias en ce moment la Fête fédérale de gym qui cherche des bénévoles. C'est notre cas aussi.
Donc l'appel est lancé ce matin.
C'est ça. Mais en fait, l'organisation tourne déjà super bien avec une équipe en or vraiment de bénévoles qui s'engagent déjà depuis l'automne dernier. Et l'association n'a cessé de grossir. C'est aussi pour ça qu'on a vu que
bon, il y avait une demande, il y avait un élan et que les gens nous suivaient, on a pas monté ça à 5 quoi. Et ça tourne déjà, c'est vraiment chouette et on se réjouit beaucoup.
Donc uniquement des bénévoles, sur le plan financier, ça c'est aussi le gros point d'interrogation ces temps dans les médias, secteur en crise, parce que baisse de la publicité, baisse de financement, comment on finance un événement comme celui-ci?
On a eu la chance d'être suivi dès le départ par les syndicats, enfin notamment par Impressum qui soutient largement le Prestival, puis par le SSM, par Syndicom, et ensuite après on est allé chercher des fonds auprès de fondations. Il y a aussi l'association SSR Suisse Romande qui nous soutient. Enfin je vais pas les énumérer parce que je vais en oublier puis ça va faire des scandales. mais non, on a réussi finalement. On avait un peu peur au début parce que vu que c'est quand même assez gros justement et logistiquement, bah il y a des tentes, il y a des chaises, il y a énormément de choses qu'il faut louer. Et finalement, on est arrivé à notre budget. Et donc, on est très content de voir qu'il y a des gens qui ont envie de s'engager, en fait, pour soutenir un événement comme celui-ci.
Donc, solidarité du côté des sponsors, si on peut les appeler comme ça. Séverine Chave, vous êtes donc, vous, responsable de la programmation. Elle s'annonce foisonnante, à une cinquantaine d'interventions en une journée. Qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce que le public, surtout, pourra y voir? Parce que ce n'est pas un festival que pour les journalistes, mais aussi ouvert au public, à nos auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices.
Absolument. Bah en fait, je trouve qu'il y a toujours ce petit tabou dans la profession où on n'aime pas trop parler de nous. Je sais pas si c'est par gêne ou par confort, mais en fait, l'information concerne tout le monde. C'est comme si on disait que la santé n'intéresse que les médecins finalement. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi de prendre du recul sur la profession, de se poser vraiment des questions un peu essentielles et presque philosophiques qui peuvent être tout à fait partagées avec le grand public. Donc on a par exemple des tables rondes autour du traitement médiatique de Gaza. On va se poser la question de comment l'humour peut servir à l'information, de comment l'intelligence artificielle transforme le rapport à l'information du côté des professionnels, mais aussi du côté du public, puisque les algorithmes, les bulles de filtre, ça concerne aussi tout consommateur des médias. On va aussi se poser des questions autour des aspects juridiques, des mesures bâillons, de ces procédures qui essayent de bloquer des enquêtes ou d'attaquer les journalistes en justice pour essayer de les faire taire quelque part.
Avec des faux procès, hein, d'ailleurs, un faux procès qui va être organisé.
Oui, avec des vrais avocats, par contre. mais une juge qui est Fatima Mansour, qui est donc la chroniqueuse judiciaire du Temps que les lecteurs du Temps connaissent très bien, et qui fera le procès de Serge Michel et Antoine Harari d'ID News pour diffamation justement. Mais ce faux procès sera aussi suivi d'une table ronde sur ce qu'on appelle les SLAP, ces mesures de pour faire taire en fait les journalistes, avec un avocat, avec des gens d'investigative.ch qui se réseau de journalistes d'investigation. Puis après, sur d'autres registres peut-être un peu plus légers aussi, il y a un spectacle de journalisme en scène qui va clore la journée. Il y aura une expo de dessins de presse où plusieurs, une douzaine de dessinateurs de presse sont allés chercher dans leur tiroir les pires dessins qu'ils ont pu proposer. Et ça s'appelle « Un artiste ne devrait jamais dessiner cela ». Il y a, Pauline l'a mentionné, une exposition de photoreporters. Il y a des écoutes de podcasts, il y a des projections de films. En fait, je pense qu'il y a vraiment à peu près... Enfin, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va nous dire « il n'y a rien qui m'intéresse dans cette programmation, j'espère ».
C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, avec aussi dans cet objectif toujours de renouer le lien de confiance avec le public. Ça, c'est une problématique hein, pour les journalistes, les médias aujourd'hui. Des speed dating, je crois, qui seront organisés entre journalistes et public. C'est quoi le concept, l'idée
Justement, on disait il y a la relève, il y a une relève qui existe. Il se trouve que il y a 4 étudiants de l'AJM qui avaient prévu de créer un festival pour leur travail de master et qu'on a un peu intégré dans notre programmation et qui eux avaient envie de vraiment axer sur le lien entre journalisme et grand public. Et donc eux ont proposé ce speed dating où vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur notre site pour rencontrer. Il y a toute une liste de journalistes qui ont été d'accord de jouer le jeu. Il y a beaucoup de journalistes internationaux aussi qui seront là pour notre espace international. Donc, si vous voulez rencontrer une journaliste sénégalaise ou la rédactrice en chef adjointe de Novaya Gazeta, par exemple, ce sera possible dans ce speed dating.
Et donc, des rencontres pour poser des questions, mais aussi peut-être pour émettre des critiques face aux médias.
Ouais. Mmh. Oui, l'idée c'est que ce soit un échange et une discussion.
D'ailleurs, il y a aussi de la presse locale hein, qui sera sur place, donc peut-être que si vous avez lu un article sur l'événement de votre coin, puis vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont ça a été mené, c'est aussi une occasion pour rentrer en discussion, comprendre comment se passe le travail journalistique et peut-être amener des critiques ou des questions.
Et des journalistes sportifs aussi.
Presse locale, donc festival qui aura lieu à Bienne, ville bilingue, mais surtout le journalisme roman, les alémaniques pas trop présents, je crois.
À ce stade, ouais. À ce stade, c'est une première édition, on est tous bénévoles, donc on a fait aussi à la hauteur de ce qu'on était capable de faire. On l'espère bien. Ça reste quelque chose qu'on souhaiterait creuser. Mais pour cette édition, on est resté peut-être un peu humble sur cette question-là. Par contre, il y a une table ronde, tu peux me compléter peut-être Séverine, mais sur la question de la presse en Suisse alémanique, certaines innovations qu'on connaît plus outre Sarine.
Oui, en gros, la question c'est pourquoi est-ce que les médias numériques marchent mieux de l'autre côté de la Sarine et comment est-ce qu'on peut s'inspirer de nos collègues alémaniques pour faire mieux de notre côté à nous.
Et teasing, on a des petites réponses déjà à cette question?
Non, il faudra venir voir la table.
Vous faites bien votre travail. L'actualité internationale, on l'a dit aussi, présente lors de ce festival. Gaza, notamment, un conflit sans journaliste ou presque sur place. On a consacré une matinale spéciale à la situation à Gaza hier avec le témoignage de Naed, cette Gazaoui francophone qui est notre grand témoin, un podcast, Une Voix de Gaza, qui est disponible depuis hier sur notre Play RTS. C'était incontournable de parler aussi de ce conflit lors de ce festival.
Je pense que c'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui, que ce soit en tant que journaliste ou dans le public, c'est un des sujets dont on parle le plus. C'est aussi un des sujets où les journalistes sont énormément scrutés pour savoir quels mots ils utilisent, comment ils se positionnent, qui ils interviewent. Je pense que c'était aussi assez nécessaire de pouvoir avoir cette discussion collectivement et puis de faire ressortir vraiment les enjeux auxquels parfois on est confronté de façon assez seule, tout seul derrière un ordinateur quand on doit rapidement publier quelque chose sur le web ou j'imagine en interview, il faut rebondir rapidement. Donc ça nous paraissait important d'amener ce sujet aussi avec le public qui d'ailleurs donne beaucoup son avis en commentaire notamment, réagit souvent sur les réseaux sociaux. Donc c'est une occasion en or d'aller creuser un peu cette question-là. Ouais.
Et Gaza, l'Ukraine aussi, hein, Séverine Chave.
Oui, il y a aussi les territoires ukrainiens occupés, notamment. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on aura aussi un journaliste gazaoui réfugié en France, justement, qui sera présent pour discuter aussi depuis le terrain directement, quelque part. Parce que nous, on a notre point de vue d'ici. Mais c'est intéressant d'écouter ceux qui étaient sur place et c'est pareil pour la journaliste de Novaya Gazeta, de comment eux vivent ces trous noirs de l'info et cet exil en tant que journaliste et comment on continue à informer sur son propre pays quand on n'y est plus.
Ça, c'est l'un des défis des journalistes aujourd'hui. L'autre défi majeur, on l'a évoqué brièvement au début d'entretien, c'est l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle qui bouscule, chamboule nos pratiques et pas seulement les nôtres. Ça va être abordé de quelle manière dans ce festival?
Alors, il y a une conférence de Solange Garnaouti que certains connaissent peut-être parce qu'elle est souvent sur cette antenne aussi, il me semble.
Qu'on a entendu encore tout à l'heure à 6h15, effectivement, nous expliquer comment fonctionnait le cloud dans un épisode du Point J.
Qui, elle, est assez, un regard assez critique sur l'intégration de l'intelligence artificielle et notamment générative dans nos pratiques et dans nos pratiques de production et aussi de consommation. Et qui est assez critique aussi envers les chartes, ces grandes chartes éthiques qui parfois sonnent un peu creux et sont pas très concrètes. Et puis par contre, il y aura aussi beaucoup plus concrètement une start-up de jeunes entrepreneurs, de jeunes ingénieurs qui, eux, ont développé un outil d'intelligence artificielle à destination des journalistes qui est plutôt utilisé pour créer des bases de données, de revues de presse et de veille de l'actualité qui, eux, vont présenter un peu leurs produits pour essayer de l'améliorer en discutant directement avec leur public cible. Et donc voilà, on a un peu, c'est un peu un bon exemple de ce qu'on veut faire avec ce festival. C'est à la fois présenter des outils concrets, réfléchir ensemble à partager nos expériences en tant que professionnels et puis en même temps prendre du recul sur notre profession en se questionnant avec notre public d'un point de vue un peu plus presque philosophique sur l'usage qu'on fait de ces outils et où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait en fait.
Vous, dans votre quotidien, votre pratique de jeune journaliste, l'IA, ça bouscule déjà votre façon de travailler, Pauline Rumpf?
En tout cas, on la voit déjà arriver, ça pose déjà des questions. Je pense que tout le monde gentiment a déjà fait un peu joujou avec ChatGPT et les journalistes ne font pas exception à ça. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se développent aussi plus en background, hein, de mouliner des informations, des traductions. Ça fait très longtemps que beaucoup de gens utilisent la traduction automatique qui est aussi basée sur l'IA. Donc clairement, ça on l'utilise déjà aujourd'hui, et puis on n'a pas encore forcément toutes les réponses sur qu'est-ce qui se passe derrière. Et...
Il y a des grandes questions de souveraineté aussi numérique. Bah, je sais qu'à la RTS, vous avez développé votre propre outil, mais il y a beaucoup de journalistes qui balancent énormément d'informations sur des outils dont on ne maîtrise pas du tout les outils de production, en fait.
Il y a l'un des grands défis aujourd'hui pour le journalisme. Le journalisme roman touché aussi de plein fouet par ces mesures d'économie, ces licenciements dans la presse écrite et pas que. Ça, ce sera aussi évoqué d'une manière ou d'une autre lors de ce prestival, même si on l'a compris, l'idée c'est d'être quand même positif, de donner des raisons d'espérer.
Il y a une table ronde justement qui sera dévolue à l'économie des médias, qui est d'ailleurs animée par Coraline Pochard, que vos auditeurs connaissent bien également. Et puis oui, comme je le disais tout à l'heure, on a cette sensation d'être à la fin d'un modèle économique, à la fin d'une ère médiatique, mais aussi à la fin d'un modèle économique, et que maintenant c'est à nous de créer celui qui va venir, parce que l'information, elle reste essentielle, surtout dans notre démocratie semi-directe, et elle va pas disparaître. Et on est obligé de se poser la question du modèle économique, et on peut le faire que collectivement. Je pense pas que chacun dans son coin on va trouver la solution. Donc c'est aussi un des buts de ce festival, c'est de se rassembler pour lancer. En fait, on veut que les choses naissent au festival, et c'est pas un point d'arrivée pour nous, c'est un point de départ à d'autres projets.
Pardon,
je disais, nous, on n'a pas forcément la prétention d'amener quoi que ce soit comme réponse. C'est plus l'idée aussi d'être une plateforme pour que ces idées, elles puissent émerger, elles puissent s'affiner peut-être. On va aussi accueillir dans l'espace Petit Média, qui sera tout en haut des gradins dans la canopée, justement des petits médias qui se lancent avec peut-être des nouveaux formats, avec peut-être des nouvelles cibles ou des nouveaux points de vue ou des nouvelles lignes éditoriales. Et du coup, ouais, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accompagner ça en sachant que personne n'a encore trouvé la solution. Et c'est pas nous qui allons la découvrir tout seul comme des grands, mais voilà, l'idée c'est d'amener une plateforme de plus pour essayer de trouver des pistes.
Une journée de réflexion, d'échange ouverte aussi au public. Pour conclure, un prestival réussi, c'est un prestival, je vous laisse compléter.
Moi, je pense que c'est déjà un festival réussi, en fait, parce que j'ai l'impression que l'élan qu'on sent venir dans la profession, là autour, il est déjà positif, en fait. L'idée pour nous, c'est aussi de créer des liens entre les journalistes qui sont parfois assez isolés dans leur rédaction. Et on sent que là, via notre soirée de lancement qui a eu lieu il y a quelques mois, l'organisation, les liens qu'on a avec les rédactions, il y a déjà quelque chose de chouette qui se crée. Et puis, ouais, je pense que...
Donc déjà réussi en amont pour vous, Pauline Rumpf. Au soir du 7 juin, c'est Evryne Chav, ce sera réussi si on a fait quoi?
Si on a réussi à attirer le grand public, en fait, à venir nous rencontrer, parce que on le martèle jamais assez, l'information concerne tout le monde, on n'a pas envie de se retrouver entre professionnels, parce qu'on s'aime bien, mais bon, à un moment donné, on a aussi envie d'échanger avec notre public. Et puis, chose intéressante et importante à mentionner, certes, c'est dans un stade, mais même s'il pleut, tout est à l'abri, tout est prévu, et il faut quand même venir, comme dirait Pauline à ma gauche, s'il pleut le 7 juin à Bienne, le meilleur endroit où être, c'est le stade de la Courcelles.
Exact.
Pas besoin d'apporter son parapluie. Merci à toutes les deux. Séverine Chav, en charge de la programmation de ce prestival. Pauline Rumpf, en charge, vous, de la logistique. Toute première édition, donc ce sera samedi 7 juin à Bienne, au stade de la Courcelles. Toutes les infos sur votre site prestival.ch. Aussi simplement que ça. Bonne journée et d'avance un bon festival à vous.
Merci beaucoup.
Et à 7h52, comme tous les jeudis, c'est 120 secondes en nouvelle diffusion ce matin, qui revient sur la fête fédérale de gym. Elle aura lieu à Lausanne dans quelques jours maintenant. Ça approche.
120 secondes. L'invité de Vincent Véhu.
L'été prochain, la ville de Lausanne accueillera l'un des plus gros événements populaires de l'année en Suisse, la fête fédérale de gymnastique. Les organisateurs annoncent des chiffres qui donnent le tournis. Un budget de 25 millions, 300 000 visiteurs attendus, quelques 65 000 gymnastes inscrits à 85% en provenance de Suisse alémanique, 27 sites accueillant les compétitions aux quatre coins de la capitale vaudoise, un camping pouvant accueillir 20 000 personnes, et le tout rendu possible grâce à la mobilisation mobilisation de 5000 bénévoles. Sauf que pour l'heure, à peine un quart d'entre eux a été trouvé. Et les organisateurs lancent donc un appel aux volontaires. On en parle avec vous. Michel Brise, bonjour.
Et bonjour.
Vous êtes l'adjoint du chef du service des sports de la ville de Lausanne. Et vous faites partie du comité d'organisation de la FFG 2025. Alors d'abord, c'est incroyable tout ce monde qui va converger vers votre ville cet été.
Ça va être un sacré boxon sur Lausanne. Hein. D'ailleurs, je déconseille déjà aux automobilistes d'aller au centre-ville entre le 12 et le 22 juin. Comme le reste de l'année, d'ailleurs.
J'avoue que j'ignorais que la gymnastique était si populaire.
Alors, bon, il faut quand même relativiser. Hein. 300 000 visiteurs, ça fait un paquet, mais je rappelle qu'il y aura 65 000 participants. Ça fait donc moins de 5 spectateurs par athlète. En gros, chaque jeune sera accompagné par papa, maman, mémé, la frangine, puis un voisin. Hein. Non, je doute qu'il y aura beaucoup de monde qui viendra juste pour le show. Pour cause d'ailleurs, hein. Ouais, c'est quand même assez chiant de regarder une partie de balle à la corbeille, une séance aérobique, ou bien de la gymnastique rythmique avec des pinglets qui font tournoyer un ruban, un couratin sur un tapis, hein. Surtout si vous êtes pas bourbine.
Ouais. Oui, je l'ai pas vu parce que je le disais, c'est un événement qui est très populaire, surtout en Suisse allemande.
Oui, la gymnastique, c'est un peu comme le hornus, la lutte à la culotte ou le lancer de la pierre d'une spoon. On a un peu de peine à comprendre ces pratiques rupestres si on est né de la partie civilisée de la Suisse. D'ailleurs, c'est la première fois que la fête fédérale de gym a lieu de ce côté de la Sarine depuis 1978. C'était à Genève, alors. Mais ma foi, voyez, on est obligé de se taper l'organisation de ce machin de temps en temps pour avoir le droit de rester de la Confédération. Faut ce qu'il faut.
Et donc, vous avez un peu de peine à recruter des bénévoles?
Oui, et alors il nous en faut 5000. Comme un paléo. Ouais, l'ambiance, hein, moi. Alors, si vous avez rien de spécial de prévu du 12 au 22 juin, si passer des heures à rien foutre sous le cagnard vous fait pas peur, si vous avez pas eu d'histoire avec la police des mœurs récemment...
Quoi? Comment ça, la police des mœurs?
Ben oui, parce que vous voyez, les participants, pour la plupart, ce sera des jeunes qui passeront l'essentiel de leur temps en cuissette moulante. Mais... Alors, on préfère pas prendre de risques.
Bon.
Si vous avez une grande résistance à l'ennui, si vous parlez couramment le suisse allemand, et si vous avez pas besoin de sous, rejoignez l'équipe des bénévoles de la FFG 2025. Voilà, là, je pense que le message est passé et qu'on va crouler sous les demandes.
C'est sûr que là, en vous écoutant, ça fait vachement...
Vous allez vous inscrire vous-même.
En fait, j'y pensais, c'est dommage, mais du 12 au 22 juin, je suis chez le coiffeur.
Ah ben merde, ouais, alors.
Malheureusement, c'est comme ça. Mais je suis sûr que...
Chez le barbier aussi, je vous conseille. À moi, j'ai un tournage sur une...
Pardon ?
Avec des filles.
Il y a une remarque spéciale sur ma moustache.
Jolie moustache.
Je suis sûr que vous allez trouver de quoi vous aider. Donc en tant que bénévole, juste j'ai encore une question. J'ai vu que sur votre site, l'un de vos 4 principaux sponsors était une marque de bière.
Oui, vous en avez d'ailleurs un petit peu trop vu hier, apparemment. C'est cardinal.
Oui. C'est un événement sportif principalement destiné à la jeunesse.
Oui, mais alors c'est pas un sponsor qui est destiné aux concurrents, mais aux spectateurs. Ah. Voyez, oui, parce que regardez ces compétitions, on est donc sobre. Ouais. Même si c'est vos gamins qui sautillent, c'est clairement pas une option. Hein.
Je vois bien. Bon, bah en tout cas, on se réjouit de suivre cet événement et rendez-vous donc du 12 au 22 juin prochain. Michel Brise, membre du comité d'organisation de la FFG 2025. Merci de nous avoir donné envie.
Ouais.
Et bonne journée.
Il faut aller faire la sieste maintenant.
120 secondes en nouvelle diffusion et les deux Vincent ainsi que toute l'équipe de la matinale sera en direct de cette fête fédérale de gym le 12 juin prochain. On vous proposera une matinale spéciale délocalisée.
I'm like making appearances. real life.
Love in real life, c'était Lizzo sur RTS Première.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Genève à Ost, les automobilistes patientent une heure et demie au péage français du tunnel du Mont-Blanc. Sur l'autoroute Lucerne-Chiasso, un embouteillage s'étend sur 11 km entre Hersfeld et l'entrée nord du tunnel du Gothard. En direction du Tessin, ça représente 2 heures d'attente environ. Les romans et plus généralement les voyageurs à destination de l'Italie sont invités à emprunter l'A9 et l'axe du Grand Saint-Bernard ou le col du Simplon. L'inforoute en tout temps, c'est aussi sur notre site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Et la matinale, ça continue jusqu'à 8h30 en ce jour férié avec un best-of, une sélection des moments forts de tout un monde de ces dernières semaines concoctées par Éric Guévard-Affray. Ce sera juste après le journal de 8h qui arrive.